cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir, évidemment, de se retrouver comme ça, semaine après semaine, pour parler bande dessinée, pour parler 9e art. Et ben, comme vous avez peut-être remarqué, depuis le début de l'année, on est un peu en mode rattrapage. Donc, des albums dont j'avais beaucoup envie de vous parler, eh ben, qui se retrouvent un peu au sommet des entrevues qu'on vous propose depuis janvier. Et ça, au fil des semaines à venir également. Donc, il y a quand même une belle, belle production l'automne dernier. Et ben, parmi ces titres-là, il y en a un qui fait un peu la jonction entre le 7e et le 9e art. Ça s'appelle le Storyboard de Wim Wenders. C'est un album qui est du côté de la boîte à bulles. C'est un album de l'auteur du Nouveau Monde de paysans, donc qui s'intéressait à ces paysans artisans au Québec. Donc, il était également sorti il y a quelques années du côté de la boîte à bulles. Et il est avec nous pour traverser cette émission en notre compagnie, Stéphane Lemardelé. Bonjour.
Bonjour, bonjour Raymond.
Alors, d'entrée de jeu pour le storyboard ou le scénario-image de Wim Wenders, eh bien, on va se placer un peu temporellement et ça devient un peu aussi le point de départ de ce projet-là et le point de départ de l'album comme tel. Donc, on est en 2014 et par « on », j'entends surtout toi. Donc, il y a un beau jour, Wim Wenders qui t'appelle, ou du moins son équipe. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un artiste de storyboard pour les accompagner dans la préparation de la séquence d'ouverture du film « Everything Will Be Fine ». C'est une grosse production internationale. Il y a des techniciens un peu partout qui débarquent ici, et des acteurs un peu partout qui participent à la production, incluant des Québécois et des Québécoises. Et la séquence d'ouverture bien, représente un certain défi. Elle est tournée en extérieur. Elle dure à peu près 13 minutes et on veut maximiser les chances de réussite. Et donc, un beau jour, tu es chez toi et le téléphone sonne et ce projet-là arrive à toi.
Oui, effectivement, c'était même la veille de Noël 2013. Et puis la veille de Noël, je vois qu'il y a un téléphone qui sonne. Je dis, bon, je reconnais que c'est une maison de production. Je dis, la veille de Noël, ça va, quoi. Puis je réponds quand même, tu sais, gentiment. Puis là, on me demande si je serais prêt à travailler sur un film. Je dis, là, c'est Noël, faut voir, avec Wim Wenders. Oui, j'arrive. J'aurais été prêt de travailler même le jour de Noël avec lui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé de façon un petit peu drôle. Finalement, on a commencé, ils m'ont laissé le temps de lire le scénario. Et puis, on s'est retrouvés tout début janvier, donc à Montréal, pour commencer ce travail avec Wim et Emmanuel Fréchette, qui était directeur artistique sur ce film-là, quoi.
Et donc, ça, c'est le début du projet comme tel. Et c'est en cours de projet, comme un peu tu le montres dans l'album, où on se rend compte que ce projet-là pourrait devenir une belle excuse pour, de ton côté, faire intégrer à un album que tu avais envie de faire depuis un certain temps sur le travail d'artiste de storyboard.
Oui, parce qu'en fait, peu de gens savent c'est quoi un storyboard. Il faut être lié un petit peu au monde culturel pour savoir ce que c'est. Ça fait partie des métiers cachés du cinéma, puis d'autres métiers, même en bande dessinée, on fait des storyboards, mais bien souvent, c'est l'auteur, le dessinateur lui-même qui le fait. Et quand je dis que je fais du storyboard, bien souvent, on me pose la question, qu'est-ce que ça mange en hiver, quoi. Donc, c'est sûr que c'est un des métiers cachés. Mon idée à moi, ma volonté, c'était depuis longtemps d'expliquer ce qu'est le storyboard. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'illustration plan par plan d'un scénario. Alors, le processus, c'est que je m'assois avec le réalisateur ou la réalisatrice et puis on repasse à travers le scénario et que j'illustre dessin frame par frame. Ça permet au réalisateur de préciser son idée, de savoir où est-ce qu'il s'en va et donc au tournage, par exemple, de ne pas rater un plan, de s'assurer que la narration fonctionne, que le spectateur ait une fluidité, que le spectateur va comprendre l'histoire. Et puis, ça permet aussi à toute l'équipe de production, et c'est là que ça devient, primordial dans la démarche de Wim, ça permet d'organiser le tournage. Alors, ça permet de savoir où est-ce qu'on va placer les caméras, comment va se dérouler le tournage, etc. Les décorateurs, par exemple, peuvent prévoir un certain setup tout en sachant que l'autre partie va jamais être vue, par exemple. Alors, c'est un outil intéressant. Moi, dans ce genre de travail, je me mets vraiment à la disposition du film. Je n'ai pas d'attente en particulier là-dedans, parce que ça m'est arrivé quelquefois que des réalisateurs ou des réalisatrices aient peur que je leur enlève leur spontanéité et leur création. Moi, je me mets complètement au service du 7e art. Et là où ça rejoint la bande dessinée, comme tu disais, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est de raconter une histoire en images. Et c'est là qu'on voit des parallèles avec le cinéma et la bande dessinée, où bon, il y a des règles communes aux deux. Et peut-être que la bande dessinée a plus de liberté parce qu'on peut choisir le cadrage, et puis si on veut un plan en hélicoptère, ben, c'est pas compliqué. Mais c'est vraiment l'idée globale, et le Wenders se dit bien, de s'assurer que l'histoire est compréhensible et fluide. Alors, quand ça marche avec le storyboard, ça fonctionne ensuite en général au film, quoi.
Et tu disais, dans le fond, tous les cinéastes ne sont pas nécessairement confortables à utiliser ce type d'outil-là. Dans le cas de Wenders, même on découvre à l'intérieur de l'album que même l'utilisation d'un scénario, des fois, devient aussi déjà une contrainte. Dans Paris, Texas, je pense que c'est entièrement improvisé. Donc, ce qui fait que ça t'offre une opportunité, d'un côté, d'explorer, d'intégrer l'usage du storyboard dans le contexte d'une réflexion sur le médium cinématographique. D'un côté, sur l'image en général, comme tu l'as dit, dans le fond, c'est une réflexion sur le choix des plans, des processus, des procédés, donc il y a une réflexion narrative. Et en parallèle, ben, de comprendre aussi précisément justement cet élément-là sur le pourquoi on l'utilise et pourquoi des cinéastes qui, normalement, n'utiliseraient pas du tout cet outil-là vont quand même choisir de le faire parce qu'il y a des ressources, il y a des enjeux, il y a des défis et on a besoin d'avoir cette information-là.
Oui, alors effectivement, petit correctif, en fait, Paris, Texas, la moitié du film, le début du film est complètement scénarisé au millimètre, et l'autre partie du film, à peu près à la moitié, est complètement improvisée. Alors ça, moi, c'est quelque chose que je ne pensais pas que ça se faisait, d'autant plus que Paris, Texas a eu une Palme d'Or à Cannes en 84, alors c'est complètement incroyable, et quand on regarde effectivement de nouveau ce film avec cette connaissance-là, on voit à un moment donné quelque chose qui change dans le jeu des comédiens, il y a une fragilité qui est là, la caméra est un peu différente, effectivement. Puis ça, moi, ça me charme complètement. Et effectivement, Wenders a même été beaucoup plus loin, où il s'est permis pour le film 176, je crois que ça a été tourné, le film Au fil du temps, où là, c'est complètement improvisé d'un bout à l'autre. Et ça, moi, je suis tombé de ma chaise, et apparemment Godard faisait pareil. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Oui, en bande dessinée et en narration graphique en général, mais en cinéma, ça coûte tellement cher que je ne pensais pas. Alors, c'est d'autant plus particulier que Wenders fasse appel à moi dans ce contexte-là. Alors, effectivement, il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui aiment ça. Il y en a certains, j'ai été appelé il y a quelques mois, j'ai dû refuser parce que je ne pouvais pas. Un réalisateur qui voulait storyboarder tout son film. Ça coûte un bras. Cet automne, j'ai travaillé avec une réalisatrice pour un tournage ici qui se passait dans ma région autour de Sutton. Et puis elle, par contre, d'emblée, elle dit « Non, moi, je ne veux pas de storyboard. » Et là, j'ai vu, on était en Zoom comme là, puis j'ai vu le chef cascadeur et le directeur photo faire des yeux comme ça. Parce que il y avait deux cascades dans ce film et une séquence qui était un petit peu risquée avec un drone. Donc, il fallait que le chef cascadeur, il n'avait pas envie de se casser la figure trois fois de suite. Le directeur photo, il voulait savoir où mettre exactement la caméra. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, par exemple, qui était vraiment très particulière, c'est que j'ai rassuré la réalisatrice en lui disant, regarde, je ne vais pas t'enlever ta liberté de création. Moi, ça va être un guide que je vais te proposer et qui va te permettre d'aider tout le monde et de savoir où placer les caméras, qu'est-ce que le cascadeur va devoir faire et comment ça va être filmé, où est-ce que va être le drone, etc. etc. Alors, ça a permis de prévoir tout ça, mais tout en laissant sur tout le reste, et encore même sur le reste du tournage, l'entière liberté de création de la réalisatrice. Et même là, et c'est ça qu'elle a apprécié au final, c'est que elle a vu par mon trait de crayon, par des croquis que je faisais live avec elle et toute l'équipe, c'est elle qui me disait où est-ce qu'elle voulait mettre la caméra. C'est absolument pour moi qui choisit. Alors, je me mets vraiment au service. Alors, il y a plusieurs, comment dire, cas, mais façons de travailler. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, je m'adapte à la façon de faire. Ce qui a été, oui.
Oui, j'allais dire, en fait, tu t'adaptes, mais en même temps, il faut que tu comprennes aussi où tu vois. Il y a une notion de discussion. Donc, Oui, on peut se limiter à dire, ben justement, je veux la caméra, fais-moi tel type de plan, mais j'imagine que le processus devient encore plus riche quand tu arrives à aller comprendre la démarche du réalisateur, quand il y a une notion de transmission et quand on se met un peu dans une approche un peu de co-création. Donc, une fois qu'on comprend la logique inhérente au film, qu'on comprend la relation ou le regard que le cinéaste porte sur l'aspect narratif, sur l'usage des plans et le reste, ben après ça, dans le fond, tu peux proposer des choses, il y a un jeu d'aller-retour, un peu comme on retrouve justement dans la bande dessinée.
Exactement. Alors, tu vois, deux anecdotes de tournage, une grosse production hollywoodienne où le réalisateur, sans me prévenir, sans rien me demander, m'a emmené dans un gymnase où des cascadeurs répétaient une scène de bagarre. Et moi, j'ai compris qu'il fallait que je filme cette scène de bagarre-là. Puis, heureusement, ils l'ont répété trois fois. Je l'ai photographié, filmé sous trois angles différents. On est retourné au studio et là, le réalisateur s'est tourné derrière moi, vers moi, puis il m'a dit quand est-ce que tu peux me livrer ça? J'avais aucune autre indication. Alors là, donc pour moi, c'était assez périlleux, mais d'un autre côté, le gars, il me donnait carte blanche. Alors, c'est moi qui ai fait quasiment qui ai organisé le tournage, les plans. Au niveau confiance de création, c'est énorme. Alors ça, c'est un aspect assez particulier. Il y a aussi un autre cas de figure, et c'est là que je l'ai retrouvé un petit peu avec Vim, c'est j'adore quand un réalisateur me dit, là Stéphane, je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Puis globalement, ça veut dire, as-tu des idées? Puis ça, alors là, on s'assoit. On s'assoit lui et moi, ou elle et moi, puis on fait des croquis. On cherche. Et là, il y a vraiment une phase de création entre les deux. Il y a un échange créatif. Bien sûr, j'ai lu le scénario avant, mais bien souvent, le scénario, on l'oublie, puis on se concentre sur la scène, sur la suite des images, parce que le dialogue n'est pas intégré, au storyboard, mais il faut en prendre compte dans le déroulement. Alors, dans ce cas de figure-là, il y a vraiment un échange. On cherche tous les deux le meilleur moyen de filmer la scène, de tourner la mise en scène. Ça, c'est vraiment créatif. Et c'est un peu le cas de figure que j'ai retrouvé avec Vim. Dans le sens où c'est quelqu'un qui sait où il s'en va et qui n'a pas peur d'improviser. Ceci dit, il avoue aussi qu'il déteste les tournages parce que c'est quand même une grosse machine, quoi. Et on s'est retrouvé. Alors, il y a eu deux cas de figure où, à un moment donné, dans un bureau, dans son Bed and Breakfast, on est là, il s'arrête, puis il me dit, attends Stéphane, parce que là, je sais pas. Puis là, il ferme carrément les yeux. Puis il passe, je sais pas, peut-être 1 minute, 2 minutes, à réfléchir, à défiler, faire défiler le film dans sa tête. Puis au bout de 2 minutes, il me dit, là, je sais. Et là, il me décline exactement toute la suite de plans qu'il veut. Alors ça, c'est vraiment un échange très, 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 très riche d'enseignements. Et là où ça a été encore plus extraordinaire et que je n'ai jamais vécu ailleurs, c'est que pour la petite anecdote, je suis parti de Sutton, c'était en hiver, j'arrive à Montréal, on se retrouve dans ses bureaux, donc ça va, je suis parti en jean. Hein. Puis là, pendant le repas du midi, il me dit, ce serait bien, Stéphane, que tu viennes avec nous à Oka faire du repérage. Ah, bien sûr que j'allais pas refuser, mais sauf que j'étais parti, moi, presque en chemisette, tu vois. J'ai eu froid. Parce qu'on s'est retrouvé sur le lac gelé de Oka, par moins 16 avec un facteur vent qui ressemblait aux températures qu'on a eues la semaine dernière. Je pense que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, mais ça a été une expérience extraordinaire. Dans le film, le comédien James Franco doit parcourir à peu près 200 mètres entre un point avec un enfant où il récupère un enfant et la maison qui est 200 mètres plus haut. Et là, on s'est retrouvé donc Vim, Emmanuel qui chronométrait, Donata Wenderf, la femme de Vim, qui filmait pour le making-of, et moi qui prenais des photos. Toutes nos batteries ont lâché une par une. Et Vim s'est mis à, comment dire, à mimer l'action qu'il attendait du comédien et à remonter le chemin qu'il devait faire en mimant qu'il traînait une luge et tenant l'enfant par la main. Puis là, arrivé à la moitié du parcours, il avait décliné dans sa tête tout le dialogue. Et là, il s'est rendu compte qu'il était seulement à la moitié du chemin. Donc, il s'est dit, ça marche pas. Donc, on s'est retrouvés tous les trois à essayer de déterminer en combien de fois, en combien de plans on allait tourner cette scène et qu'on a déterminé que ça se ferait en 3 fois. Sachant que dans sa vision, le dernier plan est un reverse, donc un contre-champ de toute la scène, et que James Franco et Charlotte Gainsbourg allaient redescendre tout le chemin à pied en courant. Mais là, si on tournait ça en dernier, comme dans la chronologie du film, ben on allait avoir toute la neige massacrée par les techniciens, par les camions, par les grues, par tout ça. Alors bien entendu, ce dernier plan a été tourné en premier, mais bien sûr, juste pour amener les deux comédiens, il fallait juste qu'il y ait deux traces, à peine deux traces dans le chemin. Alors, ça a permis d'avoir un échange créatif vraiment très, très fort, parce que c'était des scènes compliquées. Il faut savoir donc que Wim Wenders avait besoin de ce storyboard parce qu'on tournait déjà en plein hiver, une partie sur un lac gelé. Alors, vous imaginez sur le lac d'Oka, les 40-60 techniciens, les camions, les grues, sachant que la semaine d'avant, du repérage, il y a eu un redout, il y a eu une des cabanes de pêche blanche qui a coulé.
Oui, puis ça devient la rengaine d'ailleurs du film, il faut qu'il neige, il faut qu'il neige, il faut qu'il
voilà, froid. C'est ça, où ça devient, puis j'en ai rajouté un petit peu dans la BD, mais on sentait qu'il avait un stress, parce que lui, il engage tout un tournage, puis si ça avait été un tournage comme on a eu début janvier là, à certains endroits au Québec, il n'y avait pas de neige. Ça devenait problématique. Ça s'est bien passé, mais c'est sûr que faire un tournage au Québec et de s'apercevoir qu'on voit l'herbe, ben non, ça ne marche pas. Alors, et qui plus est, on tournait avec des enfants. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas plus de 3 heures par jour. Alors, il faut vraiment que tout le monde soit prêt et que dans ce cadre-là, théoriquement, l'improvisation que Wim aime faire dans ses tournages, là, il ne pouvait pas se permettre.
Oui, mais il y avait trop de risques, en fait.
Ouais, j'ai reçu quelques mois après une préface qui est intégrée, parce que le bouquin va être traduit en anglais pour les États-Unis et en allemand pour l'Allemagne, bien sûr. J'ai reçu cette préface et moi, je voyais ça comme quelque chose d'extraordinaire. Je dis, waouh, j'ai fait une rencontre avec Wim Wenders. Bon, on sort les violons, n'est-ce pas? Mais je pense qu'effectivement, quand j'ai reçu la préface, j'en ai encore des frissons. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un bel échange, et ça a été quelque chose, ça a été un moment, ça a été 3 semaines intenses, mais 3 semaines de créativité vraiment intéressante. Et j'ai le sentiment que ça s'est fait des deux côtés, parce que justement, je pense que j'ai réussi à me mettre à son service, tout en étant à son écoute, et de le suivre, en fait. Et ça a été professionnellement et humainement une... C'est quelqu'un de très humain, déjà, on le voit quand on voit tous ces films. C'est très humain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Wim Wenders, on a parlé de Paris, Texas, Palme d'Or à Cannes en 84. C'est Les Ailes du Désir. C'est Buena Vista Social Club, le premier long-métrage tourné en vidéo. C'est Pina, le film sur Pina Bausch, qui a été tourné en 3D. C'est plus récemment Salgado, Le sel de la terre, sur le photographe Sebastião Salgado. Alors, c'est des films où l'humain est primordial. Un ami américain qui parle de l'amitié. C'est à chaque fois des films où l'humanité est mise de l'avant, quoi.
Oui, en fait, c'est un cinéma qui sert pas à s'évader de la réalité, mais à représenter puis nous offrir un point de vue, une posture sur la réalité comme telle.
Exactement, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, il le dit bien, Everything Will Be Fine a été tourné en 3D, mais pour essayer de se rapprocher encore plus du comédien et de voir qu'est-ce qu'il aurait éventuellement dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Et ça, il y a quelque chose qui se passe effectivement. Et chaque fois, il essaye de se rapprocher un petit peu plus de ça. C'est pas du tout pour avoir des effets à la Hollywood avec des effets spéciaux, des explosions et tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans l'idée de raconter une certaine humanité. C'est quoi notre société? Et Everything Will Be Fine est complètement là-dessus. C'est un film qui est quand même assez lourd. On y parle du deuil d'un enfant perdu. de la rédemption de quelqu'un qui l'a tué par accident, hey, c'est pas joyeux. Et son questionnement à Vim, moi, il y a eu la dernière image du storyboard, c'est un enfant qui vient de perdre son frère, qui retourne jouer sous le sapin de Noël tout seul, et je lui ai dit clairement à Vim, c'est une des images que j'ai eu le plus de difficultés à dessiner, et c'est pas une question technique du dessin, c'est l'émotion. Alors lui, il a réussi à m'emmener dans un simple storyboard en noir et blanc mal dessiné, parce qu'il s'agit juste d'avoir un dessin suffisamment précis, il a réussi à m'amener dans cette émotion-là. Et quand je lui ai dit ça à Vim, sa réponse est oui, je ne sais pas comment on peut vivre à la perte d'un enfant.
Et je mentionne d'ailleurs, en fait, parce que qu'on soit très clair, il n'y a aucune obligation de voir ou d'avoir vu Everything Will Be Fine avant de lire le storyboard de Wim Wenders. Par contre, réservez-vous un petit temps après parce que vous allez avoir envie de le voir après l'avoir lu, c'est certain.
Mais, merci.
D'une manière ou d'une autre, en fait, c'est ce que tu mentionnes, c'est vrai que même en ayant, exemple, pas vu le film au préalable, et même d'autant si on ne l'a pas vu, on ne sait pas le punch de ce storyboard-là. Et la dernière case, cet impact-là, est là sur le lecteur aussi. Donc, il y a l'histoire qui est racontée dans ce storyboard est suffisamment claire et narrativement, ça nous amène vers ça. Et le choc, il est là aussi. Peu importe la relation qu'on a avec le film, finalement, au moment de lire la bande dessinée.
Ah, ben merci beaucoup. Si ça passe dans la BD, je suis très heureux, effectivement.
et dans le travail, en fait, parce que là, on est un peu dans le contexte aussi, pour l'instant, dans le fond, dans le travail sur Everything Will Be Fine, à quel moment ce travail-là, tu as eu le déclic de « OK, ça pourrait être ma porte d'entrée pour parler de mon travail », ça pourrait être la porte d'entrée pour un projet BD plus large que simplement le travail de scénar-image. Et j'imagine qu'à un certain point, ça vient aussi changer un peu ta relation avec ce travail-là parce que tu ne fais pas juste vivre le moment, mais tu dis « OK, là, je vais aussi me donner la liberté de documenter ce que je vis, de documenter mon point de vue sur tout ça, puis sur Wim, puis sur le travail, sur le tournage, etc. »
Alors, oui, effectivement, alors ce qui est intéressant, pour moi, c'est un tournant dans ma vie, ce projet-là. Ça, c'est clair, et puis on est juste tous les deux, je peux t'en parler. C'est vraiment un tournant dans ma vie professionnelle et même ma vie personnelle, dans le sens que ça a changé beaucoup de choses pour moi. Déjà, la vision de Vim, de le côtoyer, ça fait réfléchir à plein d'affaires. Et c'est venu un petit peu comme tout seul, dans le sens que je voulais depuis longtemps raconter c'est quoi le storyboard, mais je savais même pas comment le faire. Alors, la petite anecdote, c'est que j'avais demandé à peu près un an avant, sur une grosse production hollywoodienne, d'aller sur le tournage pour dessiner ça. Et moi, ce que je pensais faire, à la limite, parce que j'avais déjà fait des livres qui étaient plus sous forme de carnet de voyage, c'était de raconter cela à la manière d'un carnet de voyage, mais la forme n'était pas précise encore. Mon amour premier, c'est la bande dessinée, mais je ne me suis jamais senti capable d'en faire, et encore moins d'en vivre, parce que pour moi, je ne sais pas raconter d'histoire. Alors,
le sourcil sortir... élevé là, pour l'auditeur. <C'est ça. rire>
Mais parce que raconter une histoire en bande dessinée, il faut savoir amener un punch. Il y a des règles, il y a des codes, il y a des façons de faire que la case en bas à droite t'amène à tourner la page, etc. Et j'avais même personnellement, décroché de la BD. J'en achetais plus, puis voilà. Jusqu'à ce que je découvre les romans graphiques documentaires. Et là, pour moi, ça a été un renouvellement dans le sens que j'ai retrouvé le plaisir de lire de la BD, mais d'apprendre sur des sujets que je n'aurais peut-être jamais explorés auparavant. Le roman graphique documentaire, biographique, autobiographique, etc., avec l'association notamment, nous permet de découvrir des pans de vie, mais tout en gardant, de façon très sérieuse, mais tout en gardant le côté ludique de la BD et la richesse du livre qu'on referme quand on veut et qu'on retrouve 10 ans après et qu'on peut réouvrir à la même page. Alors pour moi, le livre est le papier pour moi est la façon d'archiver quelque chose, quoi que ce soit, la plus sûre. Alors pour moi, le livre faisait partie de l'essence même. Mais j'avais donc posé cette question au producteur hollywoodien qui d'aller dessiner sur le tournage. Et là, on m'avait répondu que c'était compliqué pour les assurances, pour tout ça. Je dis j'ai été assistant de prod, j'ai été vidéo assistante, j'ai travaillé sur plein de tournages, même avant de faire du storyboard. Je sais ce que c'est. Donc devant mon assistance, le producteur me demande carrément en me regardant dans les yeux. Écoute Stéphane, je vois très bien l'intérêt artistique de ton projet, mais c'est quoi l'intérêt marketing pour nous ? Alors, effectivement, je n'avais pas d'argument. Comme on dit en bon québécois, mon chien était mort. Un an après, je me retrouve avec Wenders. Et là, je lui repose la même question. Puis là, sa réponse, c'est « Oui, Stéphane, bien sûr, mais comment tu vas faire ? Tu vas avoir froid ?» Alors là, on voit l'humanité du monsieur qui s'inquiète de moi, il est tout à fait d'accord que je documente son tournage, mais il s'inquiète pour ma personne parce qu'on tournait en plein hiver sur un lac gelé, etc., etc. Alors déjà, on voit tout le rapport humain est complètement, il est là, tout simplement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le roman graphique m'a fait retomber dans la bande dessinée. Et en faisant du repérage avec Vim et Emmanuel, un midi, Emmanuel me parle, on parle de choses et d'autres, et Emmanuel Fréchette me dit « J'ai lu une BD qui est l'histoire d'un vigneron et d'un auteur de BD qui passent un an ensemble à s'échanger leur métier. » Je dis « Bah oui !» C'est « Les ignorants » de Étienne Davodeau. J'adore ça, c'est absolument génial. Et la réponse de Vim, en face de nous, dit « Ah, je ne connais pas cette BD, mais j'aime le titre. » Parce que quand on est ignorant, ça veut dire qu'on peut encore apprendre. Alors moi, ça m'a fait fondre complètement parce que ma volonté, elle était là. C'est « J'apprends des choses en faisant le storyboard, en travaillant avec lui, etc. » Puis ma volonté, c'est tout simplement d'expliquer mon métier, donc de continuer. Comme disait Simone Veil, c'est pas un devoir de mémoire, c'est un devoir de transmission. Donc j'apprends des choses et ma volonté, c'est de la faire apprendre aux autres. Alors, juste avec cette réflexion-là, bien sûr, j'ai vu Les ignorants d'Étienne Davodeau, que je remercie encore pour son travail, et j'ai copié sa façon de faire. Et d'ailleurs, si on fait bien attention à l'ouverture du livre, Les ignorants est cité plus tard parce que j'explique cette anecdote-là, mais dès le départ, la première image, on me voit dans la BD et je fais une référence au tournage aussi avec un rayon de lumière, et sur la table est posé Les ignorants d'Étienne Davodeau. Pour moi, c'est un livre de référence que j'ai offert des dizaines de fois, et même à la maison, j'en ai 2 copies, une pour la prêter, puis une pour la garder précieusement. Alors, ça a été la construction, la forme narrative, documentaire, d'échange entre 2 personnes. C'est celle des ignorants et c'est celle que j'ai suivie tout au long de ces 150 pages, quoi. Alors, c'est comme ça que j'en suis. Et il faut savoir aussi que ce livre-là a été fait avant Le Nouveau Monde Paysan. Alors, c'était vraiment le tournant. Et depuis ça, alors en plus, je suis très chanceux parce que le Covid a fait qu'il n'y a plus eu de tournage du tout. Donc j'ai quasiment eu aucun appel pendant 2 ans, mais depuis je me consacre plus à la narration graphique en livre qu'à la narration graphique pour le cinéma, et ça pour moi c'est un rêve d'enfant que je vis, hein. faut pas se leurrer. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas, quoique je suis en train d'apprendre depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'ai appris énormément. Et si j'estimais que je ne savais pas raconter une histoire, je pense que c'était plus que je ne savais pas raconter une histoire ou imaginer une histoire. Et le documentaire m'a permis de me conforter là-dedans, dans le sens qu'avec ce projet-là, j'avais mon histoire qui se résumait aux 3 semaines que j'ai passées avec Wim Wenders sur ce tournage. Donc, j'avais J'avais l'histoire de A à Z. Après ça, il me suffisait juste d'utiliser des trucs de narration que je connaissais en cinéma et de les adapter à la bande dessinée. Alors, j'ai appris, même au niveau graphisme, au niveau graphique, mise en page, c'est-à-dire que si on regarde Wenders, tous mes plans sont des cadrages cinématographiques, c'est un panorama d'écran de cinéma. Comme on parle de cinéma, ça fonctionne. Et depuis que j'ai fait ça, j'essaye de casser de plus en plus cette rigidité. J'ai réussi à le faire un petit peu avec Le Nouveau Monde Paysan. Et là, je termine actuellement un roman graphique sur Simone Veil d'après un scénario de Pascal Bresson. Alors, je casse encore un petit peu plus. Donc, j'évolue, j'apprends.
Et Stéphane, en fait, on parle d'une certaine façon, il y a une simplicité temporelle, effectivement, tu l'as dit tantôt, c'est 3 semaines que tu racontes, mais j'ai l'impression que tu t'es quand même donné, d'un point de vue narratif, certains défis à l'intérieur de l'album, parce que je pense que ce serait mentir que de dire que c'est un peu mono-approche, dans le fond, où on est centré sur le tournage. Il y a plusieurs types de moments ou types de réflexions qui se côtoient, je trouve, à l'intérieur du storyboard de Wim Wenders. Dans un premier temps, il y a effectivement ton expérience à toi. Par contre, c'est une expérience qui va tranquillement, parce que dans les premières pages, tu es le personnage central du récit, tu vas passer de protagoniste à observateur, tu vas laisser la place de protagoniste à Wenders, et c'est lui qu'on va suivre. Et donc, ce qui fait qu'il y a un peu un deuxième élément qui va émerger, tu parlais des ignorants tantôt, mais cette dynamique d'échange, cette dynamique de discussion autour de l'image, où on va chercher. J'imagine d'un côté des discussions que tu as eues avec lui, de l'autre côté qu'on va les bonifier de lecture d'ouvrages et de propos que lui a tenus autour de ses films. À ça, on ajoute la création du storyboard lui-même, où on te retrouve à Oka, on est au lac de Montagne, on doit travailler avec l'équipe, donc on est vraiment dans le présent, dans le fond, de ces 3 semaines-là comme telles. Par moment, on revient quand même à toi comme protagoniste parce que quand Wenders n'est pas là, tu continues à exister, à travailler, tu as une vie aussi pendant ces 3 semaines-là, même si elle est beaucoup consacrée au film. Et à ça, on ajoute un quatrième fil qui sont les storyboards eux-mêmes, ou du moins une partie des storyboards que tu vas intégrer à l'album et qu'on intègre dans une logique narrative à l'intérieur de l'album, parce que c'est le genre de truc où tu aurais pu mettre en annexe à la fin. On arrive, puis bon, on a lu l'album, puis après ça, OK, sur quoi tu travaillais vraiment, mais non. Là, on les insère à l'intérieur de la BD, pas dans une séquence suivie non plus, mais dans 2 séquences. Donc, un peu pour aussi les utiliser dans le contexte de narration de l'ensemble des autres fils. Donc, finalement, quand je regarde ça, je me dis, oui, c'est simple d'un point de vue temporel, mais d'un point de vue narratif, tu as quand même beaucoup de niveaux de récit et ça aurait pu facilement devenir quelque chose qui était touffu aussi. Et dans ça, ben, faut jouer un peu d'équilibre pour qu'au contraire, du touffu, on passe plutôt au fluide et que ça coule dans le fond d'un des éléments vers l'autre pour construire un tout qui est cohésif au bout du compte.
Oui, alors bah écoute, tu me touches beaucoup parce que je pense, sans vouloir me lancer de fleurs, je pense que oui, ça a été, mais ça a été complètement inconscient. Je pense que je l'ai fait naturellement et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, qui est réussi dans cette narration-là, que ça ne devienne pas une pizza avec anchois et supplément bacon. Et puis... mais je pense que la recette, elle est assez simple dans le sens que. Pour moi, c'est comme je viens du cinéma, il est pas rare en documentaire de cinéma qu'on suive quelqu'un qui nous raconte quelque chose et qu'on intègre des archives, qu'on intègre d'autres personnes qui sont dans un autre contexte et qu'on revienne à la narration première. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à le faire. Et puis ça comme je pense que je l'ai fait sans trop, peut-être sans trop réfléchir, parce que l'idée, c'était de raconter le déroulement de tout ça. Et effectivement, beaucoup de gens me disent, bon, et d'une, ils comprennent un peu mieux mon métier, mais qu'ils ont le sentiment d'être avec nous, de nous suivre, quel que soit l'endroit où on est. Alors, à partir du moment où on accepte ce précepte-là, ben, ça continue. Et je pense que ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ben, c'est vraiment comme si on était avec nous dans la voiture, ou même avec moi que je corde mon bois entre deux périodes de repérage. Mais c'est aussi effectivement ce qui fait la richesse de ce livre. Et en fait, je pense que au début, je voulais expliquer mon métier. Je l'aurais fait un an avant avec la production hollywoodienne. Ça aurait fait déjà 50 pages. Puis j'aurais juste raconté c'est quoi un storyboard, point. Le faire avec Wenders, qui est un cinéaste, qui est un auteur, et donc qui a une réflexion aussi bien sur notre société, sur notre humanité, sur son évolution, c'est sûr que ça prend une toute autre envergure et que qu'initialement devoir raconter simplement, expliquer c'est quoi un storyboard, ça devient une leçon de cinéma donnée par Wim Wenders. Alors, et ce qui est intéressant, et ça je lui en dois beaucoup à Wim, c'est qu'il s'est prêté au jeu. La façon qu'on a fonctionné, alors déjà le storyboard que tu mentionnes, je n'ai rien retouché. Alors, il y a certains dessins dont je ne suis pas fier dans le storyboard en lui-même, parce que c'est vraiment des croquis, des fois même un peu maladroits. Parce que, pour l'anecdote, et on le voit dans les premières images où on devine que c'est à Noël parce qu'il y a un bout de sapin qui dépasse, il y a un jouet de mon fils qui est là, et je viens de recevoir à Noël ma nouvelle tablette graphique. Alors, c'est la première fois, c'est le premier storyboard que je vais faire entièrement en numérique, sachant qu'avant, les autres, je les faisais sur papier. Donc, je ne sais même pas, au début, je travaille avec un logiciel pour me rendre compte qu'en cours de route, je peux rien faire avec ce logiciel-là, et j'expérimente en même temps de différents logiciels. Alors, si on regarde bien le storyboard tel que, et je ne l'ai pas retouché, au début, les premiers frames sont vraiment, excuse-moi, mais dégueulasses, et les derniers sont déjà un peu plus travaillés. Alors, pour moi, j'ai pas voulu toucher à ça, parce que dès que je recommence à y toucher à ça, on est dans l'interprétation et là, on amène un biais. Et même les croquis...
Si l'objectif était de nous amener dans ton travail, transformer ton travail pour le rendre plus littéraire, c'est aussi de trahir un peu le travail initial d'une certaine façon.
Effectivement, c'était peut-être un risque, mais je voulais avancer en toute honnêteté là-dedans et faire voir aussi mon ignorance justement là-dedans à plein de niveaux. Alors, où Wim a été extraordinaire, c'est que dans la voiture, en déplacement, au restaurant, puis c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, j'ai rien changé. La petite madame qui s'en va, puis qui prend le chemin au restaurant, on discute, elle était là. À plein de niveaux, les quartiers que... Alors, je joue avec ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît très bien Montréal, qui sait où est la Maison Blanche qui lui servait de bed and breakfast, et quand on se retourne au restaurant Le Beauties ou quand on va au Cru d'Essence, ça prend 3 minutes à pied. Et par contre, dans la discussion, ça dure plus longtemps. Et on passe à des endroits qui sont dans le même quartier, mais chronologiquement, c'est comme si on faisait des allers-retours. Alors là, j'utilise aussi des trucs de cinéma pour faire comprendre que l'idée, c'est de raconter une histoire. Et le gars qui habite dans le quartier, qui nous regarde, dit, attends, ils vont dans ce sens-là, mais ils sont passés là avant de passer. Alors, je fais des clins d'œil. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je fais un clin d'œil à Michel Rabagliati, par exemple, à un moment donné. Alors, je m'amuse avec ça, qui sont des façons de faire cinématographiques et qui ne gênent pas la narration et qui permettent de passer dans des endroits de Montréal qui, pour moi, sont emblématiques. J'ai habité dans ce coin-là, je suis un amoureux de Montréal, même si je n'y habite plus, et pour moi, ces endroits représentent des choses. Il y a tout simplement des portes qu'on voit, qui sont des portes d'amis qui m'ont accueilli à Montréal il y a 27 ans. Alors, je voulais quelque part leur rendre hommage à ce niveau-là, quoi.
Et sur le rythme aussi, Stéphane, dans le fond, dans la mesure où c'est un récit qui est quand même qui pourrait avoir beaucoup de choses, mais que tu donnes le luxe, entre guillemets, aussi de le faire respirer, de l'amener dans une approche, j'ai l'impression, en fait, c'est Pour moi, ce n'est pas un tournage stressant, dans le fond, dans la mesure où tout le monde était quand même relativement serein. Il y a un côté contemplatif qui ressort du travail dans l'album et qui nous amène aussi le rythme dans lequel tu amènes la BD. Tu prends le temps de nous présenter ou de nous montrer le cuisinier qui prépare un repas, des bottes d'hiver qui sèchent, un jogger que tu croises. Il y a une lenteur, une contemplation, je pense que c'est le bon terme, qui ressort de ça aussi beaucoup.
Ben, ça, je pense que je le dois à Vim et à un certain cinéma d'auteur, dans le sens que le film hollywoodien dont je parlais tout à l'heure, j'ai trippé comme un fou à travailler dessus, mais j'ai fait 7 fois, pour la même minute de tournage, il y a 7 fois plus de dessins dans ce film de bagarre, d'explosion et tout ça, que dans un film de Wenders. Et c'est pour ça que, alors, d'un point de vue dessin, j'ai trippé à travailler sur ce film d'explosion et de cascade et de bagarre, mais ce n'est pas un cinéma qui me rejoint. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite, oui, j'arrive pour travailler avec Wim Wenders, parce que Wim, il pose sa caméra et je dirais presque, il le dit presque de toute façon, il attend de voir ce qui se passe. Et pour moi, alors par exemple, il y a quelque chose qui m'énerve en télévision, c'est quand on parle à la télévision de bande dessinée, le réalisateur ou le producteur de l'émission, il ne peut pas s'empêcher de faire bouger quelque chose dans l'image. Hey, ça fait des milliers d'années qu'on est contemplatif devant des tableaux. Il n'y a rien qui bouge et on regarde ça. Pourquoi vouloir faire tout de suite bouger l'affaire alors qu'une image fixe peut être très belle? Et ça, c'est l'influence de Wim et de ce cinéma-là qui, pour moi, consiste à faire une belle image et d'enchaîner différentes images pour qu'on finisse par raconter une histoire. Et dans Wender, enfin dans le storyboard de Wender, dans Paysan, ça a été un petit peu la même chose. Après, j'essaye de casser ça un petit peu pour avoir peut-être d'autres façons de raconter, peut-être plus dynamique, mais dans ce genre de récit, pour moi, ça s'y prête, quoi.
Oui, en fait, ça devient un rythme qui est délibéré, qui amène aussi à une réflexion, dans le fond, parce que ce qui est le fun, c'est que quand tu discutes avec Wenders, ben oui, on est dans une discussion qui est quand même animée, mais le lecteur ne se sent pas purement témoin de la réflexion. Comme on est dans un rythme qui est délibéré, j'ai l'impression que je peux absorber ce que Wenders dit, je peux prendre une pause, y penser, puis après ça, continuer, parce que ton rythme ne m'impose pas de « OK, il faut aller vite, 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 passer d'une case à l'autre. » Donc, tu nous amènes dans cette contemplation-là, je trouve.
Ben, merci encore une fois, mais effectivement, c'est ce que je voulais faire. Puis bon, moi, c'est ça la magie du livre. C'est qu'on a le temps et la possibilité de relire un passage qu'on n'a pas bien saisi ou de prendre le temps de bien réfléchir à ce qui vient d'être évoqué. Et d'ailleurs, dans la démarche de création, de rédaction, c'est ce que j'ai fait. Et là, je remercie encore une fois Wim de s'être prêté au jeu, dans le sens que par exemple, dans une des discussions, il nous explique en sorte, il nous fait voir les rushs qui ont été tournés l'été d'avant, donc toutes les séquences qui ont été tournées l'été. Nous, on a travaillé sur ce qui est tourné en hiver. Et donc, j'ai vu tous ces rushs. Et à un moment donné, je dis, hey, c'est du Hopper, ça. Puis après, le directeur a dit, ouais, puis attends, tu vas voir du Andrew Wyatt. Alors effectivement, dans tous ces films, Wenders fait référence à des peintres. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, il voulait être peintre, il a été refusé aux Beaux-Arts, et il s'est réfugié à Paris, dans l'endroit chauffé le moins cher de Paris, qui est la Cinémathèque française. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il avait une fascination pour des images fixes et que le hasard de la ville l'a amené à faire du cinéma. Mais quelque part, sa démarche, elle est picturale, elle est issue de la peinture. Et quand il fait référence à Edward Hopper, ça, c'est lui qui me l'a appris. Night Hawks, qui est un des tableaux les plus connus d'Edward Hopper, qui est ce fameux bar la nuit avec des personnes, voilà. Il y a une tension qui se monte dans ce tableau-là. On a toujours l'impression qu'il y a une voiture qui va arriver avec une mitrailleuse ou qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, Hopper amène ça. Mais il faut savoir que Hopper a été très influencé par le cinéma auparavant. Alors, je trouve ça, il y a des allers-retours qui sont très riches, et moi, c'est pareil. Un de tes collègues me disait que la peinture, la neige, la façon que je la dessine ou que je la peins, elle n'est pas blanche, il y a toujours du marron, il y a du rouge, il y a du bleu dedans. Et pour moi, Quand je vois la neige dehors, je vois cette lumière-là. Et un des peintres qui me fascine au Québec, c'est Lemieux. Parce que quand on regarde sa peinture, la neige, elle n'est pas blanche. Et quand on l'observe, non, il y a de la couleur dedans. C'est une réverbération, je ne sais pas. Alors, c'est de se laisser influencer par tout ça. Et là où je remercie Wim, c'est que la conversation qu'on a amorcée autour de Hopper, elle a duré, mettons, un autre endroit où on parle de la lumière. Et ce qui s'est passé, alors j'avais l'air un peu bête en lui disant qu'il y avait un coucher de soleil où le ciel était rose. Et c'est vrai qu'au Québec, un certain coucher de soleil, c'est rose. Tu fais ça en peinture, non, ça se peut pas. Ben, regarde, voilà. En cinéma, et Wenders m'expliquait, on peut pas faire un film sur les couchers de soleil parce que la lumière, c'est la matière première du cinéma. Alors, il m'a juste dit ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en ayant documenté? Ben, en plus, j'avais la chance d'être sur le tournage, donc j'ai documenté à fond. Donc, j'avais, pour le storyboard, j'avais un stock d'images que je me suis resservi après. Ce que j'ai fait, j'ai replongé dans tous les écrits de sa filmographie déjà, mais aussi sa bibliographie. La vérité des images, la logique des images et tout ça. Alors, dès que dans un de ses livres, il parlait de lumière, par exemple, j'ai fait quasiment j'ai recopié ce qu'il avait été écrit et je l'ai interprété pour que ça devienne une sorte de dialogue. Je lui ai envoyé ça. Il a corrigé en me disant « Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais je le dirai maintenant plutôt de cette manière-là. » Parce que sa réflexion a évolué ou parce que la technologie a évolué. Donc, il a réadapté les dialogues jusqu'au bout et même jusqu'à la fin parce que un mois avant de partir en impression, donc mon travail était quasiment terminé, je suis complètement tombé par hasard sur une conférence qu'il donnait à Londres sur les photos qu'on fait avec nos téléphones, ou plutôt les images qu'on fait avec nos téléphones. On prend des milliers de photos. On les regarde à peine, et même on les imprime plus jamais, et qui plus est, on les balaye du doigt. Donc, on n'a plus aucun respect pour cette image-là, et la réflexion, le questionnement de Wim, c'est de se dire, est-ce qu'on peut encore appeler ça de la photographie? Il n'a pas la réponse, mais est-ce que c'est de la photo? Parce qu'elles sont prises inconsciemment, avec des fois un narcissisme un peu poussé. C'est généralement pas des belles photos. Il y a plus. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors il y a un questionnement là-dedans. Alors j'ai rajouté une page dans la BD que j'ai réscénarisée. Je lui ai renvoyé ça en lui expliquant ça. Il m'a répondu 2-3 jours après. Il me disait ouais c'est super Stéphane. Donc hop, il y a eu une page de plus qui s'est glissée au dernier moment. Alors je lui en remercie beaucoup parce que de l'idée première d'expliquer le storyboard, c'est devenu une véritable leçon de cinéma. Et même s'il a écrit des livres dans les années 80 là-dessus, ce sont avec des réflexions très poussées, c'est une leçon de cinéma avec des réflexions complètement actualisées sur son travail d'auteur. Alors pour ça, je suis très chanceux parce que c'est un livre, c'est une leçon de cinéma, c'est une vision sur les arts en général par Wenders complètement actualisée.
Oui, en fait, c'est qu'on aurait pu penser qu'au départ, en fait, que le storyboard est un peu de l'excuse, que le film est un peu l'excuse pour parler du storyboard. Mais finalement, quand on boucle l'album, quand on finit la lecture, on se rend compte que le storyboard était plutôt l'excuse justement pour nous ouvrir vers le cinéma, mais nous ouvrir vers des réflexions qu'on prend peu le temps des fois de faire parce qu'elles sont souvent limitées à des ouvrages spécialisés au bout du compte, mais des réflexions sur l'image. Et pour moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de s'ouvrir aussi à ce type d'éléments-là parce que, comme lecteur, c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact. Quand on regarde un film, quand on prend le temps de se poser la question sur pourquoi on fait telle séquence, ou même sur Hopper, dans le fond, comme tu l'as dit, on est dans une image fixe, mais narrativement, elle est extrêmement riche, cette œuvre-là. Il y a quelque chose qui se passe autour de ça qu'on perd peut-être dans certaines photos parce qu'on est juste dans l'objectif de documenter un moment, mais sans se poser la question de « oui, mais dans quel but? » Mais tout ça nous ramène vers notre relation avec l'image, à questionner l'image et à enrichir notre expérience de cinéphile ou de bédéphile, au bout du compte.
Oui, bon, moi je pense que c'est ça qui fait toute la richesse de ce livre. Et c'est là, et alors ça revient un petit peu à ce qu'on disait au départ, dans le sens que pour moi c'est ça la magie de la bande dessinée, c'est qu'on peut avoir une réflexion quasiment philosophique, mais sans se prendre la tête à lire un ouvrage d'un philosophe ou quoi que ce soit, et que la bande dessinée nous offre la possibilité de réfléchir à tout ça, tout en gardant son côté ludique. Et pour moi, c'est ça qui fait la force de la BD. Et qui plus est, alors c'est là que je vois un petit peu la différence entre la BD et le roman graphique, qui est, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que c'est pas la même avenue. Il y a peut-être un côté moins
En fait, c'est
entertainment,
du.
tu
Ou
vois.
peut-être dans la structure album, en fait, il y a des contraintes que le roman graphique, dont le roman graphique s'émancipe, donc ça reste de la
Oui.
BD, mais on est dans un médium qui est peut-être un peu moins cadré, défini, et qui, pour les auteurs, dans le fond, vous permet de vous émanciper d'un 46-54 pages, d'émanciper de certaines approches graphiques visuelles qui sont obligées par l'efficacité qui est requise d'un nombre de paginations restreintes pour se laisser le temps de respirer, d'exister, de réfléchir, de.
C'est exactement ça que, pour moi, c'est ça que j'ai découvert dans le roman graphique, c'est la liberté aussi bien de création et de lecture, de réflexion, qui dépasse ce qu'on avait l'habitude d'avoir en bande dessinée, et même d'un point de vue historique ou quoi que ce soit, ça nous permet de revoir des choses, des pans de notre histoire, et tout en réfléchissant. Alors, c'est une liberté aussi bien de création que de lecture que ça nous apporte. Pour moi, c'est un tout. Et il n'y a absolument pas de côté élitiste à cette démarche-là, parce que justement, ça garde le côté simple de la BD. Et c'est ça que je trouve merveilleux, parce qu'un essai sur le même sujet pourrait être justement élitiste et barbant. Alors que là, non, ça reste de la BD. Et j'ai plein d'amis, notamment des femmes, qui ne lisaient, qui n'ont jamais lu de bande dessinée. Et qui, en tombant là-dessus, dit, hop, ça existe, ça, et puis qui tombe dedans. Alors, c'est ça qui est merveilleux, parce que ça garde, c'est une approche sérieuse, mais qui garde le côté de lire un livre plaisamment, sans se prendre la tête, sans se prendre au sérieux, alors que le sujet peut être très sérieux. Donc, c'est ça qui est magique, quoi.
Et je pense que tout ça nous amène à inviter à nouveau les auditeurs, auditrices à justement jeter un coup d'œil à cette bande dessinée, donc le storyboard de Wim Wenders du côté de la boîte à bulles, de prévoir du temps aussi pour regarder des films de Wim après également si on ne le connaît pas ou trop peu. Stéphane Lemardelé, merci beaucoup d'avoir passé l'émission avec nous.
Ben, c'est moi qui te remercie, Raymond. Merci à toutes et à tous pour le plaisir que vous m'offrez ici de parler de mon travail. Et puis, ben, au plaisir.
Oui, à une prochaine. Ben, dans le fond, nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La vie en BD. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un club de lecture.